Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Avant de lire et de situer notre méditation ce matin, ça sera dans l'Ancien Testament, je vais vous donner les références d'ici quelques instants, j'aimerais simplement faire une réserve, donner un petit avertissement du sujet qui va être abordé. On va faire un commentaire sur un texte, donc, et le sujet est quand même assez délicat. Alors, vous allez le comprendre. Dans ce sens que nous allons descendre, si je me permets, dans les profondeurs de la nature humaine. Alors, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont découvertes. Il y a des choses que nous pouvons réaliser, non pas humainement parlant, mais spirituellement parlant. C'est ce qui fait finalement l'objet d'un des dons de l'esprit que Dieu a donné, c'est-à-dire le discernement des esprits. Et il est indispensable, dans une église, auprès d'un conducteur spirituel ou d'un pasteur, parce que sans cela, eh bien, nous ne pouvons pas véritablement savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et je crois que le but de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est précisément de savoir ce qui vient de l'homme, c'est-à-dire la chair, ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire du divin, et ce qui vient du monde ténébreux des esprits, ce qui vient du malin. Alors en arrière-plan, eh bien, nous allons porter notre réflexion sur la place et les droits que nous concédons, nous les hommes, tout simplement à l'adversaire et avec ses conséquences néfastes. Et vous allez comprendre tout de suite avec le texte que je vous indiquais de quoi il s'agit. Et ça peut éclairer certains, ça peut nous éclairer nous-mêmes. Et nous allons donc ouvrir 1 Samuel chapitre 16 verset 14. C'est un texte important. C'est un texte que les prédicateurs abordent rarement. Mais il y a naturellement, eh bien, parfois, eh bien, des combats et des luttes pour aborder ce sujet parce que il est révélateur. Alors, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Je lis. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül, c'est le roi d'Israël, hein, naturellement, lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva près de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service. » car il a trouvé grâce à mes yeux, et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Vous connaissez le texte ? Ah, c'est pas une lecture qu'on fait tous les jours, hein. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dont l'Église doit être enseignée. C'est important. Au verset 14, il nous est simplement rappelé « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, du roi d'Israël qui s'appelait Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu se retire, la question qui est posée. La présence de Dieu est un gage de paix, d'aise et de confort. Nous le savons et nous l'avons vécu au moment de notre décision, de notre conversion. Ce que nous étions avant, peut-être dans l'angoisse, dans l'inquiétude, la peur de la mort, toutes sortes de choses, toutes sortes d'agitations, ça pourrait se formuler de cette manière. Et puis la différence que nous avons vue, après un temps de marche avec le Seigneur, où le Seigneur nous a mis en repos, dans le calme, où nous pouvons dire aujourd'hui, je crois, que Jésus est notre paix et notre souverain bien. C'est David qui le dit cela. Alors les raisons, nous allons les découvrir au fur et à mesure de notre méditation, parce que bien que le roi Saül soit véritablement le souverain d'Israël, c'était un Israélite, c'était un homme qui avait la connaissance de la volonté et des commandements de Dieu. Ça n'en faisait pas, pour autant, un homme de foi, un homme obéissant à Dieu. Et c'est peut-être justement, cette carence dans sa vie. C'est pas parce qu'il avait le titre de roi, c'est pas parce qu'il avait le titre tout simplement d'israélite, qu'il avait été élevé en dignité pour devenir le monarque de cette nation de Dieu, de cette nation élue, qui en faisait un homme exemplaire et un homme qui servait Dieu, qui aimait Dieu. Alors les conséquences, nous les avons vues, il a été saisi d'agitation. À partir du moment où l'Esprit de Dieu l'a quitté, il a été saisi d'agitation. Et je dirais, comme le texte nous le montre, il est tombé entre ses propres mains. Il est devenu finalement, en l'absence de la présence de Dieu dans sa vie, il a été livré à lui-même. Je dis bien livré à lui-même. Et on peut parler de volonté permissive de Dieu, puisqu'il nous est simplement rappelé un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors n'ayez pas peur. Je le dis tout de suite, je voudrais vous rassurer. C'est un commentaire qui nous donne à réfléchir. Et n'allez pas penser qu'après avoir entendu ce que vous allez entendre, vous êtes entre les mains du diable, d'accord? Le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a donné la nouvelle naissance, qui vous a fait naître de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas seulement avec vous, il est en vous. N'ayez pas peur. Et ne vous laissez pas suggérer par les voies ténébreuses de l'ennemi, que finalement, vous êtes possédé, que vous êtes habité. Je le dis en préambule, parce que autrement, il n'y aura plus personne dimanche prochain ici. Vous avez compris? Bon, vous avez bien retenu ce que j'ai dit, parce qu'on va aller dans le développement de tout ça. Vous êtes enfant de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des saints, mais nous appartenons au Seigneur. Et nous l'affirmons que nous appartenons au Seigneur. Alors, je vais pouvoir aller plus loin. Mais ça va peut-être vous compliquer la vie, ce que je vais lire là maintenant. 2 Thessaloniciens. Et ça, c'est le monde dans lequel on est. C'est le monde dans lequel le Seigneur nous a retirés. Écoutez bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que je lis devant vous? Il est dit ceci. Que l'apparition de l'Antichrist, l'apparition de celui qui va se mettre à la tête des nations du monde entier. Et il nous est dit que il sera suivi avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché pour ceux qui périssent avec, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voilà. Pour être sauvés, ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Ils sont condamnés à cause de quoi? Ils sont condamnés parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Vous croyez en Jésus, d'accord? Bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà la chose principale et essentielle. Mais il nous est dit que dans les derniers temps, un vent de folie va souffler sur le monde. Il est déjà là, hein. On regarde autour de nous, on écoute, et puis on va comprendre que de toute façon, le monde n'est pas chrétien, même s'il porte l'étiquette de chrétien. Mais il n'est pas chrétien, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas ni de conversion, ni de repentance, ni de nouvelle naissance. Alors il nous est parlé de séduction, de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent. Ils ne savent pas qu'ils périssent, mais c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur. Saül était un homme qui n'avait pas l'amour de la vérité dans son cœur. On va faire les rapprochements maintenant. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est Dieu qui leur envoie, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et parce qu'il s'était retiré de lui, tout simplement, eh bien, ça venait de Dieu, en raison de ce qu'il n'avait pas l'amour de la vérité, simplement. Alors on va aller encore un peu plus loin. Le verset 15 nous dit ceci. Les serviteurs du roi Saül sont venus vers le roi et lui ont dit, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. C'était pas seulement le fait d'une dualité d'un homme qui était le roi, en l'occurrence, mais il nous est dit qu'il y a un diagnostic qui était porté et un diagnostic d'un mal dont le roi Saül était lui-même, eh bien, non pas la victime, parce que bon, on va pas trop le décharger, mais qu'il était lui-même, eh bien, en quelque sorte, l'auteur de ce mal. Et c'était rendu public puisque ses serviteurs s'en apercevaient. Je vous laisse à croire et à imaginer, eh bien, quelque part, l'atmosphère dans le palais, hein, quand vous avez un homme qui est devenu fou. Qui était devenu fou, pas toujours, mais par moments. Et la perturbation était reconnue de tous ses serviteurs. Et quelle ambiance! On peut imaginer ce que ça pouvait donner, hein. Quand un homme qui règne, quand un homme qui est roi, quand un homme qui a des pouvoirs, et qui est complètement schizophrène, un paranoïaque, alors je peux vous dire que ceux qui sont autour, ils en prennent plein la figure. Mais il y en a eu dans l'histoire, hein. Vous savez, l'approche de ces grands personnages qui ont été des tyrans et des fureurs. Oui, en allemand, ça veut dire berger, mais des bergers fous. Je peux vous dire que là, personne ne dit plus rien, hein, parce que ce sont des malades. Quand même pas exagéré, ce sont des malades. Faire couler le sang et détruire, hein, parce que c'est la seule pensée. Alors ils vont lui dire que notre Seigneur, ses serviteurs du roi vont lui dire, mais que notre Seigneur parle. Bon, on sent qu'il y a de la crainte, hein, quand il se présente. Hein. Tes serviteurs sont devant toi et ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de la harpe et tu seras soulagé. Ah, c'est une bonne solution, on pourrait penser le croire. Mais permettez-moi de dire que c'était un remède bien humain. Ouais, c'est bien humain ce qui est proposé, mais à défaut d'autre chose. C'est un remède humain, mais très loin d'être suffisant pour le cas qui nous entretient. Qui nous atteste, nous, encore aujourd'hui, que soulagement n'est pas délivrance. Oui, que soulagement n'est pas délivrance. Le soulagement est peut-être à la portée des hommes, mais la délivrance, elle ne vient que de Dieu. Ça, faut le comprendre, hein. Ensuite, le roi Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et lui dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. David, qui va devenir le prochain roi d'Israël, mais des années après, hein, ça va pas venir tout de suite. David est appelé par le roi parce qu'on lui a indiqué qu'il avait le pouvoir finalement de calmer, de soigner temporairement le roi qui était agité. Et il est reconnu par tout le peuple, il est reconnu dans le palais du roi. Il est musicien, il est vaillant, c'est un héros, il est guerrier, un guerrier courageux, il est éloquent, il est agréable parce qu'il est beau. Et il est béni de Dieu. En fait, on va chercher une solution qui va faire tout le contraire de ce qu'il faudrait que ça soit. C'est-à-dire que par le fait que tout le monde parle de David comme un homme extraordinaire, avec toutes les qualités extérieures, mais moi j'y ajouterai les qualités intérieures, parce que David c'est un homme de foi, c'est un homme qui aime Dieu, qui aime la vérité de Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, vous le savez. Eh bien tout cela, parce que tout le monde en parle dans le palais, tout pour exciter le mauvais esprit. Et je vous donnais une raison à tout cela. Parce que c'est pas L'affaire de ceci, de réputation, de ceci et cela, c'est une affaire de mentalité et c'est une affaire de position de cœur. Oui, on va proposer à Saül pour lui apporter le repos dont il a besoin, tout le contraire de ce qu'il aurait besoin. Et pourtant, toutes les apparences sont là. Car le problème de Saül, c'est l'orgueil. C'est la vanité. C'est la rivalité. C'est la concurrence et la jalousie. Alors, la jalousie. On en a parlé dernièrement ici. Je voudrais vous donner et redonner une définition de la jalousie. La jalousie, écoutez bien, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous possédons. Et c'était vraiment le cas de Saül. Il ne voulait pas perdre sa place, Saül. Il était le roi bien installé, mais il y a des sièges éjectables dans toutes les situations haut élevées. Ouais. C'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous possédons, ou alors c'est l'envie, ou alors l'envie, c'est la douleur de voir autrui jouir de ce que nous désirons et que nous n'avons pas. Et ça, ça fait partie des profondeurs de la nature humaine. Un jaloux ne dit pas « je suis jaloux ». Un orgueilleux ne dit pas « je suis un orgueilleux ». Attention, hein, il ne dit rien. Mais je peux vous dire qu'il en fait la démonstration. Par des mesures de rétorsion, des mesures de vengeance, à travers la mauvaise langue, à travers toutes sortes de choses. Et ça peut mener très loin, et nous allons le voir. Alors, un mal dont la source est un état intérieur mauvais. Saül était un homme qui était animé mauvaisement. Voilà. Et vous allez voir, c'est très paradoxal, c'est très ambigu. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans la vie de Saül. Parce qu'il paraît comme ça, mais il est tout autrement quand on touche à son orgueil. Quand on touche à sa jalousie. Quand on touche à ce qu'il possède. Ça, c'est de la jalousie. Quand on touche à sa vanité. Alors, là, à ce moment-là, on va voir le vrai visage. De l'agneau qu'il paraît, il va devenir un loup. Un loup, hein. Alors, on va aller un peu plus loin encore. Il nous est rappelé au verset 21, David arriva donc auprès de Saül dans le palais, et il se présenta devant lui. Et, chose curieuse, il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Avant même d'avoir commencé son travail, de jouer de l'harpe. Il plut à Saül. Il y a un enthousiasme immédiat. Tout de suite, le roi va lui donner une élévation dans le pouvoir. Il va lui donner également, il va l'élever en dignité, et il va être distingué entre tous. Et la suite nous est présentée, et Saül fit dire à Isaïe, donc le père, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » C'est terrible, hein. Maintenant, on peut dire que David, il est prisonnier d'un fou. Excusez-moi le mot, hein. Mais c'est ça. Parce que la schizophrénie, également la paranoïa et toutes ces déviances finalement psychiques, ça existe hier et ça existe encore aujourd'hui. Il y a bien des infirmités physiques. Pourquoi n'y aurait-il pas des infirmités également psychologiques et mentales? Mais ça, on n'en parle pas trop. Un boiteux, ça se voit, il a besoin d'une canne ou d'un déambulateur. Un aveugle, il a besoin finalement, eh bien là, dans de choses nécessaires pour pouvoir entrevoir peut-être la lumière. Mais quelqu'un qui est malade psychiquement et mentalement, ça ne se voit pas. Par contre, ça se ressent. Quand on peut le ressentir. Parce que c'est là où il faut voir le discernement des esprits, dons spirituels, dons du Saint-Esprit. Car il a trouvé grâce, tout simplement à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et alors, à ce moment-là, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Ça va, vous suivez? Vous êtes assis, tranquille. Il n'y a pas encore de ceinture de sécurité sur nos chaises. Et vous allez voir. Vous allez écouter. Il y a là une apparente thérapie. Oui, on peut peut-être parler de ça. Vous savez, ça se fait maintenant en médecine. Les gens qui sont agités, on leur fait entendre de la musique. J'ai entendu parler de ça brièvement, mais enfin, voilà. Vous avez remarqué, il nous est dit pour la troisième fois dans ce petit texte que nous avons lu ce matin, « mauvais esprit venant de l'Éternel ». Trois fois. Alors, c'est quand même assez curieux tout cela. Et dès qu'il y avait quelques notes sur la harpe, Voilà notre bonhomme, royal. Il perdait finalement, eh bien, toute cette agitation, toute... Ouais. Mais je le rappelle, soulagement n'est pas délivrance. On va le voir d'ici quelques instants. Je voudrais mettre en comparaison maintenant un autre texte biblique qui est non moins troublant. Dans le livre des Rois, au chapitre 22, alors livre des Rois, on va regarder ça, au chapitre 22, il nous est parlé d'Akab, qui était un roi bizarre, digne héritier probablement de Saül, hein, parce qu'il y avait quand même des gens bizarres. Et vous savez, j'ai remarqué une chose, quand les gens ont le pouvoir, ils deviennent fous. J'espère que je vais finir en prison ce soir. Oui, ils deviennent fous. Qu'ils s'appellent Louis XIV, Napoléon, et puis Hitler, Staline, Mao, et tout ce que vous voudrez. Oh là, ça va me coûter cher. Si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, de toute la semaine, vous direz que je suis en prison. Eh oui, vous dites ça comme ça, mais vous allez voir. Si vous ne me voyez pas, vous direz que je suis en prison. Je vous ai pas tout dit. Ça fait sourire certains. Alors, 1 Roi, chapitre 22. 22 et verset 20. C'est le prophète Michée qui intervient, l'homme de Dieu. Et au verset 20, et l'Éternel dit, en parlant finalement eh bien, à Michée et puis à toute cette congrégation qui se trouve là, qui séduira le roi Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Là, il s'agit de faire tomber un homme qui est roi d'Israël, un roi profondément mauvais et méchant. Et il y a là toute une tractation spirituelle dans les lieux célestes pour faire tomber ce roi. Alors, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais quand on connaît bien la Bible, les choses s'éclairent naturellement. Alors, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans sa bouche, dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Alors ça vaut la peine que vous relisiez ces textes et que vous les méditiez. Parce que là, je passe très rapidement, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier. Ouais. Tout à fait particulier. Un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge qui peut venir sur les hommes par défaut d'avoir, de ne pas avoir l'esprit de la vérité et d'aimer la vérité. Nous, vraiment, je le crois, autant que nous soyons sincères et vrais devant Dieu, Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui est un esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, d'accord? Je mets des points, hein. Parce que c'est pas la peine de vous troubler inutilement. Et je suis pas là pour vous troubler, je suis là pour vous montrer qu'il y a aussi une autre dimension que la dimension naturelle. Qu'il y a une dimension spirituelle. Et que cette nature-là, eh bien, est une nature de l'esprit naturellement. Un esprit de mensonge. Dans le psaume, et nous allons avoir la réponse, dans le psaume 81, il nous est dit ceci, et au verset 12 et 13, c'est Dieu qui parle. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. » Israël n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Comment se fait-il que Dieu est capable d'abandonner? Comment se fait-il que Dieu est capable de lâcher sa main protectrice et souveraine sur la vie de certains hommes et de les laisser finalement, eh bien, choisir selon leur aberration? Et là où il y a un esprit de mensonge qui va les conduire finalement, eh bien, à leur perte. C'est curieux, ça. Hein? C'est un sujet très grave que nous abordons ce matin. Très grave. Il est question dans le psaume 81, en quelque sorte, c'est la révélation des prises ou des connexions qui permettent l'intrusion du mal, c'est-à-dire par refus d'écouter Dieu, sa vérité, la non-obéissance à ce que l'on sait pertinemment et que Dieu nous a enseigné, ce que l'on sait vrai et qu'on refuse de croire et d'accepter comme vrai. D'où le résultat, livré à leur propre penchant et à leur cœur, à leur propre penchant et à leur cœur, et d'être tout simplement aux prises avec leurs conseils qui sont des conseils faux, des conseils de mensonge. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Si vous venez cet après-midi, si vous êtes là cet après-midi, je vais prolonger le message. Et vous verrez qu'il y a là des choses très intéressantes dans les personnages bibliques. Des hommes boiteux, hein, souvent boiteux, enfin boiteux psychologiquement, mais même des chrétiens qui sont tombés dans les pièges. On parlera de Pierre, qui à un moment donné va scandaliser Jésus. Tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Et Jésus dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». On en reparlera. Puissance d'égarement, d'illusion et de mensonge. Je reviens au verset 23. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. C'est une séance de musicothérapie. Vous avez entendu parler de ça ? Parce que vous savez, selon l'adage, que la musique adoucit les mœurs. Quand vous êtes un peu énervé, écoutez du Mozart ou du Vivaldi, vous allez voir. Formidable. Cet adoucissement des mœurs, dans le cas, procure le calme. Il s'est retrouvé à son aise. Il respirait mieux, Saül. Il était dans un soulagement, un apaisement. Alors, il nous est simplement rappelé, le mauvais esprit se retirait de lui. Et je voudrais faire une parenthèse d'explication. En ce qui concerne Saül, dans cette période-là, dans les derniers jours de sa vie, ça sera autrement. Parce qu'il ira gratter, il ira chercher ses unes cartomanciennes à Andorre, pas Andorre en Espagne, Andorre en Israël. Oui. Il ira chercher finalement, pour sauver sa vie, la consultation d'une cartomancienne, d'une divineresse, d'une femme qui évoquait les esprits. Mais là, dans le cas où il nous intéresse, où nous en sommes, il s'agit non d'une possession, non d'une habitation, mais d'un assiégement séquentiel. Excusez-moi, j'explique. C'est que tantôt il pouvait être bien, et tantôt il pouvait être mal, tantôt il pouvait être très bien. Et je vais vous donner la preuve qu'il pouvait être très très bien. Il était capable même de parler sous l'action du Saint-Esprit et de dire des choses merveilleuses. Et tantôt, il était très mal à devenir un homme tyrannique, un homme sanguinaire, un homme impossible à vivre. Tantôt, il était animé d'un mauvais esprit et tantôt, il était reposé. Dieu n'était plus là, mais il y avait un intermédiaire pour le reposer, c'était David. Avec sa guitare, là, avec sa harpe. Enfin, c'est pas une guitare, mais... Ouais. C'était plus Dieu en personne. C'était un intermédiaire, un agent que Dieu avait décidé de mettre auprès de Saül pour le reposer, pour le calmer. C'était plus Dieu lui-même. C'était un auxiliaire. Il y a plein de pensées autour de ça. Alors, la question que nous pouvons nous poser, mais comment un croyant, fils d'Israël, comme Saül, voire même un chrétien, peut-il en arriver là? Je vais affirmer une chose ce matin. Un chrétien, tant qu'il marche avec le Seigneur, tant qu'il marche avec le Seigneur, tant qu'il aime le Seigneur, tant qu'il écoute le Seigneur et qu'il reçoit la vérité du Seigneur, non pas quand il le sert, parce qu'on peut toujours servir avec un autre état d'esprit, mais tant qu'il est profondément enraciné, que le sarment est enraciné sur le sept, il ne pourra jamais être possédé. D'accord ? C'est ce qu'on enseigne aux pasteurs, hein, quand ils font leur étude théologique. Alors, parce qu'autrement, là, on va dans de la démonologie, on va n'importe où. Hein. Non. Mais il était par moments animé. Alors, pour en arriver là, on va lire, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 10, parce que c'est une étude, hein, ce matin, hein, vous l'avez bien compris. Chapitre 10, Samuel, chapitre 10, versets 9 à 11. Écoutez bien. C'est au moment où Dieu va appeler Saül pour l'oindre comme roi d'Israël. C'est-à-dire, il est tout jeune. C'est un bel homme. Il a une tête de plus que tous les autres. Il plaît à tout le peuple à ce moment-là, Saül, le roi Saül. Il nous a dit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel le prophète, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes s'accomplirent le même jour. Il lui a donné un autre cœur. C'est formidable. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saül? Est-il pas aussi parmi les prophètes? Quand il a été appelé au Seigneur, Dieu a changé son cœur. Il a fait une œuvre de conversion. Je dirais même une œuvre de nouvelle naissance. Et Dieu lui a donné les dons spirituels. Quand il s'est trouvé dans un contexte où il y avait les prophètes de Dieu qui prophétisaient, eh bien, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. C'est formidable, ça. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi Dieu l'avait doté de choses extraordinaires et qu'à un moment donné, on retrouve un autre visage, un autre personnage? Un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu et d'un homme qui est devenu fou. Ah, il y a quelque chose qui lui a tourné la tête. Hein. Alors on peut toujours le dire tout de suite, hein. C'est le pouvoir, c'est l'ascendant sur un peuple. C'est de dire « moi je suis et je viens de l'Éternel ». Mais on peut venir de l'Éternel, mais il faut rester aussi dans les conditions que l'Éternel nous a placées. Hein. Alors ça c'est quand même assez troublant. Troublante interrogation, c'est vrai. Il avait là la dotation de dons spirituels, la prophétie. Et il avait même les fruits de l'esprit à ce moment-là. C'était un homme qui avait le cœur changé. Un autre cœur, il nous est dit. Pourquoi a-t-il changé? Comment se fait-il que ce que Dieu lui avait donné au départ, quelque temps et très vite d'ailleurs, il a tout perdu? Il y a une unique réponse à cela, ça nous concerne aussi. Recevoir est une chose, et développer, garder et développer en est une autre. Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Dixit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Mais si nous nous convertissons, si nous marchons un temps avec le Seigneur et que nous l'abandonnons, que nous disons tout cela, eh bien, bon, c'est du blabla, c'est des histoires, ça ne m'intéresse plus, eh bien, c'est là où nous pouvons tomber, dans la situation de Saül. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui doit nous être rappelé à chaque fois que nous nous rencontrons, c'est l'exhortation à faire confiance à Dieu et à vivre dans sa grâce. Autrement, ben, nous allons perdre tout le bénéfice. Vous êtes conscients de cela? Nous pouvons nous approcher de Dieu, recevoir des choses extraordinaires de la part de Dieu, mais si nous les gardons pas, eh bien, nous allons tout perdre. C'est pas un scoop que je suis en train de vous dire. C'est vrai même dans la vie des hommes. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, nous pouvons avoir des dons, nous pouvons avoir toutes sortes de choses, et à un moment donné, ben, perdre tout cela, tout le bénéfice. Parce qu'il faut persévérer. Jésus nous le dit d'une manière très claire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il faut aller jusqu'au bout. Et si nous ne nous sentons pas capables d'aller jusqu'au bout, mais le Seigneur va nous donner la force et la capacité d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est Paul qui ajoutera, Dieu ne se repent pas ni de son appel, ni de ses dons. Eh oui. Ouais. Quand Dieu nous a appelés, s'il vous a appelés, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous êtes des enfants de Dieu, vous appartenez au Seigneur, et vous restez attachés au Seigneur. Et tant que nous resterons à marcher avec lui, et que lui marchera devant nous, rien, nul ne peut nous atteindre. Qui accusera les élus, parce que c'est Dieu qui justifie. Qui sera contre nous, parce que le Seigneur est avec nous, il n'est pas contre nous. Il faut le rappeler, parce que quelquefois, nous voyons qu'il y a quand même des frères et des sœurs qui sont tellement troublés. Et ça, c'est le but du diable, de nous troubler dans nos pensées, dans nos esprits, pour nous dire, mais je ne sais plus où j'en suis rendu. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je ne l'ai plus? Est-ce que j'ai fait le péché contre le Saint-Esprit? Vous savez pas ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit, hein? Ben, c'est parce que ça vous trouble. Parce que c'est pas ce que vous pensez. Ou d'autres choses. J'ai péché cette semaine, je suis perdu. Mais écoutez, il y a une porte qui est grande ouverte, c'est celle de la repentance et du pardon de Dieu qui vous est acquis au moment où vous le demandez. Faut être clair, hein. Moi, je pars naviguer dans des demi-vérités ou dans toutes sortes de choses qui mettent les chrétiens dans toutes sortes de choses. Vous n'êtes pas obligé de me croire. En tous les cas, croyez une chose, croyez à la parole. Et quand il est question dans le Nouveau Testament, finalement, d'affirmation du pardon de Dieu, de la foi en Jésus-Christ, quand il est question de la grâce et de la paix que Dieu nous donne, vous n'avez pas douté. Ah, naturellement, si des chrétiens vont chercher dans l'Ancien Testament des justifications à leurs troubles, Eh bien, vous avez une mesure de retard, parce qu'on ne vit pas dans l'Ancien Testament, on vit dans le Nouveau Testament. Vous avez vu, je vous ai prêché un texte de l'Ancien Testament, hein, mais ça ne vient pas contredire ce que je viens de dire. Pas du tout. Parce que l'Ancien Testament, c'était la loi. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. C'est tout à fait différent. Alors, on a dit, c'est une responsabilité de chacun. Chacun d'entre nous. C'est pas notre frère ou notre sœur qui va finalement devoir justifier à notre place, c'est tout. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle. Point final. On va voir maintenant dans l'évangile de Matthieu, ça fait partie du sermon sur la montagne, et il y a quelque chose qui peut nous interpeller. Dans Matthieu, chapitre 7, où il est dit cette parole que vous connaissez, hein, certainement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », verset 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. » Celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Tiens, ça tombe sous le sens, hein. Saül prophétisait. « N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ?» Ben lui, il pouvait pas les chasser, il les avait en lui, hein. Malheureusement, qu'il l'agitait de temps à autre. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et voilà la réponse de Jésus. « Je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui aimez le mensonge plus que la vérité, vous qui aimez l'injustice plus que la justice, vous qui aimez plus les ténèbres que la lumière. » Voilà, les ouvriers d'iniquité. C'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Mais c'était le cas, en tous les cas, de Saül. L'être et les apparences que Dieu nous donne d'être vrai. Rends-moi vrai, Seigneur. J'ai un prix à remporter, une victoire à gagner, rends-moi vrai. C'était un petit cœur qu'on chantait il y a 40 ans dans les camps de jeunesse. Oui. C'est une prière. L'être, être réellement ou les apparences. Ce sont les bons et les mauvais fruits. Et là, nous allons voir maintenant que le voile va se lever sur le roi Saül. Et on va tourner une page, toujours dans le même livre. On va prendre le chapitre 18 et au verset 5 à 17, mais il faut le lire entièrement, ça. Alors, 1 Samuel 18, verset 5. « David, allez et réussissez partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé les 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 1000 à David, et c'est à moi. Non, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on en donne 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Il eut des accès de délire. Au milieu de la maison, David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. C'est intéressant à considérer. Oui. Je reprends le verset 5 et 6. David réussissait partout où l'envoyait le roi Saül. Et il a été mis à la tête des hommes de guerre. Et il plaisait à tout le peuple d'Israël. On ne parlait que de David. Il passait à la radio, à la télévision, les médias faisaient ne parler que de David. Aucune ressemblance avec l'actualité. Même les serviteurs dans le palais n'avaient que de louanges à leur bouche pour David. Et Saül a vécu cela comme quelque chose d'insupportable. Il ne pouvait pas supporter le bien. Parce qu'à chaque fois qu'on disait du bien et qu'on nous disait que du bien de David, que du bien et continuellement du bien, il avait, comme quelquefois on peut le ressentir, comme un pincement au cœur. Oh, ça fait mal. Il n'avait pas pris un coup de poing pourtant, hein. Mais ça faisait mal, comme un pincement. Oh, c'était quelque chose de difficile. L'insupport du bien, ne pas être content du succès d'autrui. Il réussit, il est content, il réussit. Eh ben moi, il réussit, ça me fait de la peine. Ça me fait mal qu'il réussisse. Lui. Ou elle, vous mettrez ce que vous voudrez. Hein. Et ça, c'est le déclencheur d'un phénomène dont nous avons parlé tout à l'heure et je vous ai donné la définition, c'est la jalousie. Il y a un proverbe qui dit que la jalousie, c'est la jaunisse de l'âme. Quand on va un peu plus loin dans le verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. On dit, alors on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. Alors à ce moment-là, il n'a qu'à monter sur le trône et puis l'affaire est faite. Hein. Et moi, je suis roi. On me prend pour qui? Et il n'était pas content. Hein. Eh oui. Là, il y a une leçon spirituelle à prendre. Hein. Et ça peut concerner aussi les enfants de Dieu. Le problème de la jalousie. C'est difficile, naturellement. Il y a là la manifestation non dissimulée de déplaisir et d'irritation, et c'est une suspicion. Vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, on suppose toutes sortes de choses, on gamberge dans notre tête en disant « mais ah, ceci, cela, etc. » Il y en a, tout est pour lui. Et on commence à échafauder toutes sortes de choses, des choses mauvaises. Et ça vient du cœur, tout cela. Hein. Suspicion de prendre sa place à la royauté. Et ça a entraîné, et ça entraîne encore la malveillance, la maldisance et la malfaisance. Malveillance, inimitié. Et Saül regarda David d'un mauvais œil dès ce jour et dans la suite. Le mauvais œil, c'est ça la question. Hein. Il regarda d'un mauvais œil. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. Alors David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Il a lancé pour tuer, tout simplement, David. Ah, ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui est à dire. Il est pris d'une crise de délire, accès de délire, du délirium. Délirium, qui pourrait se traduire par la folie, où l'homme n'a plus le contrôle de lui-même. Ça va très loin, hein. Et c'est une folie meurtrière, c'est un esprit de meurtre, tout simplement. Et le cas est aggravé parce que, on l'a lu, non seulement il l'a pensé, mais il l'a fait. Enfin, en tous les cas, la lance est partie quand même. David est dans le rôle d'Abel, et Saül dans la peau de Caïn. On pourrait dire la même chose. Parce que Saül se disait en lui-même, je vais prendre ma lance et je vais le tuer. Donc il y a préméditation. Vous savez, le diable, il n'est pas fou, lui, hein, dans les inspirations qu'il peut susciter. Donc, le roi était conscient et il est responsable de ses mauvaises actions. Il était roi, donc il avait tous les droits. Moi, j'ai le droit de tuer David. Un simple citoyen, un simple sujet du royaume n'aurait pas pu. Parce qu'il aurait passé par la justice. Il aurait été condamné. Mais il se disait, moi, je suis le roi, donc j'ai tous les droits. C'est comme ça. Mais dans l'ombre, il y a Dieu qui veille. Parce que David s'est détourné 2 fois. Il n'a peut-être pas été conscient de se détourner 2 fois. Mais c'est Dieu qui a fait mouvoir David pour pas qu'il reçoive la lance et qu'il soit tout simplement fiché dans la paroi. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il nous explique ceci, il nous dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais que nous avons à lutter contre des mauvais esprits, des dominations, des principautés et des autorités dans les lieux célestes, et que nous devons nous tenir en garde devant cela. Donc, il faut avoir une perception spirituelle. Hein. Parce qu'autrement, si on ne le voit pas, on ne le voit pas. Hein. Donc, c'est une réalité, ce monde-là. Un peu plus loin. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Tout simplement. Dès ce moment, David devient la bête noire. On a un autre terme dans notre langage, c'est la tête de Turc. Alors, puisqu'on parlait de Turquie tout à l'heure, c'est une histoire. Pourquoi dit-on tête de Turc ? Parce qu'il y a eu l'invasion des Turcs qui sont venus jusqu'au cœur de l'Europe en 1600 et quelques, c'était donc au XVIIe siècle. Ils ont fait l'invasion, ils se sont arrêtés à Vienne en Autriche. Et la ville a été assiégée pendant des jours, pendant des semaines et des mois. Il y avait les Turcs avec leur armée très puissante, c'était l'Empire ottoman. Et les Autrichiens, les Viennois étaient renfermés à l'intérieur. Et pour passer le temps, eh bien, ils avaient inventé un jeu. Ils avaient inventé comme un ballon avec une grosse tête. Vous savez, comme les Turcs, ils ont des chapeaux assez ronds et gonflants. Et ils avaient mis comme ça une tête de Turc. Et ils prenaient des balles qui remplissaient de terre ou des choses comme ça. Et bam, comme ça. C'était un jeu. C'est pour ça qu'on dit tête de Turc. Comprenez, vous en souviendrez? Hein? Ben, ne me prenez pas pour ça, hein, parce que... Voilà. La bête noire, on pourrait dire. Il était devenu pour le roi, finalement, eh bien, la bête noire. Et quand il va s'apercevoir que derrière David, il y a la protection et l'onction divine, ça va le rendre encore plus fou. Pourquoi lui, il est spirituel et moi, je ne le suis pas? Mais tout le monde peut être spirituel si on le veut. C'est ça, hein? Ce qui renforce son animosité, son inimitié contre David, laquelle va devenir une véritable obsession de tourment. Et il va de crescendo en malaise, en mal-être, en délire, en folie, de plus en plus. Parce que là, maintenant, il avait vu qu'il y avait une popularité parmi le peuple chez David, mais là, il va s'apercevoir, c'est que Dieu est avec David. Et là, ça le rend fou, complètement fou. Oui, une véritable obsession. Vous savez, il ne faut pas se laisser aller à la jalousie, à ces choses, à ces amertumes, parce que ça va nous rendre fous. Et même des chrétiens, nous avons vu des enfants de Dieu devenir fous parce que ça devient obsédant. Ils ont quelqu'un en tête, ils ne l'aiment pas, ils veulent lui faire du mal et les choses comme ça, et ça les détruit. Heureux si l'autre ne s'en aperçoit pas, parce qu'il est tranquille. Mais quelquefois on s'en aperçoit parce que les piques, la mauvaise langue, la diffamation, toutes sortes de choses comme ça, on s'en aperçoit à un moment donné. Mais moi je voudrais pas être à la place de ceux qui sont véritablement tenus par ces obsessions. Parce que ça devient très très mauvais. C'est un cancer. C'est une gangrène qui monte, et le Seigneur voudrait nous en éviter. Moi, on a vu des frères, je ne parle pas ici, mais ailleurs, des frères dégringolés en flammes à cause d'un refus de pardon. Je crois que ça nous a été dit en prophétie ce matin. Refus de pardonner, avoir véritablement dit une dent. J'avais une amie qui me disait, c'est une mâchoire. Oh, j'avais appris ça, vous comprenez? Vous avez entendu parler de ça? Il a une mâchoire contre moi, vous comprenez? C'est plus qu'une dent. Hein. Alors tout ça avait renforcé son animosité et il voulait faire le plus de mal possible à David, voire même le tuer. C'est son geste qui le prouve, mieux le tuer. Et pour David, alors si vous avez un problème, je ne voudrais pas vous décourager, mais est-ce que vous allez entendre maintenant, prenez confiance dans le Seigneur. Pour David, la guéguerre entre le roi Saül et David, le roi était aux trousses de David, je dois le dire, pendant 35 ans. Ouais, pendant 35 ans. Saül a fait la guerre à David pendant toutes ces années. C'est terrible, hein? Il aurait pu y avoir des améliorations. Il y a eu quelquefois des temps d'amélioration parce que dans la grotte d'Adullam, il est venu lui dire, mais mon fils, je ne te ferai plus de mal. Mais deux jours après, il recommençait. Parce que c'est pas une repentance. Il y avait peut-être un remords, un regret, et à un moment donné, mais c'est pas les regrets et les remords qui vont changer notre vie. C'est une véritable repentance et la confession de notre péché si nous sommes jaloux, qui va changer, qui va permettre à Dieu finalement de faire quelque chose. Je voudrais vous dire avant de terminer un mot sur l'onction royale. Vous savez que celui qui a été le prophète, qui a été véritablement envoyé par Dieu pour un des deux premiers rois d'Israël, c'était le prophète Samuel, le grand prophète Samuel. Le premier qui a reçu l'onction royale, c'était Saül. Le deuxième, c'était David. Mais il y a quelque chose que nous lisons dans les textes et que nous passons. Il nous est simplement dit que Saül a été oint par Samuel avec une fiole d'huile. Que Samuel a oint David avec une corne d'huile. Voyez la différence? Il y en a un qui a eu 3 gouttes sur le front et l'autre qui a été baigné dans l'huile. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Saül a été choisi par le peuple et Dieu a dit, vous voulez ce roi, vous allez l'avoir, vous allez voir que vous allez danser tous les jours. Et après, c'est Dieu qui avait choisi David. L'un était choisi par les hommes et l'autre était choisi par Dieu. C'est bien la différence. Et vous savez, les gens qui ont été choisis par Dieu, quelquefois on les aime pas. Eh oui, c'est pas votre cas. Mais parce que comme s'il y avait une rivalité, il y avait quelque chose, une concurrence. Ouais. Il y a des gens qui ne supportent pas dans leur cœur, ils préfèrent que ce soit charnel, que ce soit spirituel. On a des exemples comme ça. Et je finis. Le verset 13 nous dit cette parole. Le roi donc, Saül, éloigna David de sa personne et il l'établit chef des 1000. David sortait et rentrait à la tête du peuple. On peut lire la suite. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Une persécution que je dirais diabolique maintenant. C'est une persécution diabolique qui se met en route. Je reprends. L'Éternel était avec David. Et là, ça faisait moustacher, excusez-moi l'expression, c'est pas français, Mais le roi, il devait avoir la moustache, mais en tous les cas, ça lui, c'était pas vraiment quelque chose qui lui plaisait. L'Éternel était avec David. Par contre, Dieu s'était retiré de Saül. Vous voyez, il y a les deux pendants. Le roi éloigna David de sa présence, c'est-à-dire qu'en termes social et d'entreprise aujourd'hui, on l'a mis au placard. On peut dire ça comme ça, Et il l'établit chef de 1000. Ça vous rappelle rien ce que nous avons lu tout à l'heure? Les femmes, surtout quand les femmes étaient là tout à fait, à chanter les louanges de David, il nous est dit que les femmes chantaient « Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000 ». Mais là, comme il était au placard, il ne voulait plus entendre autre chose, il a rétrogradé de 9/10 pour qu'on n'entende plus dire que David était supérieur au roi. Petite nuance, Et tout ça parce qu'il avait une dégradation de son influence. Et le succès va terrifier le roi Saül. Ah, ça va lui faire peur. Il se dit, mais c'est fini pour moi. Israël aimait David, il était à la tête du peuple. Ça a causé la rage. Vous savez, quand Jésus nous dit, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est assez vigoureux et assez rigoureux à notre message ce matin. Parce que on n'est pas des petits humains là qui marchons sur la terre dans un domaine tout simplement à l'horizontale. Je veux dire que la dimension matérielle. Mais attendez, il y a un autre monde au-dessus de notre tête. Si vous croyez en Dieu, eh bien, nous sommes obligés de croire qu'il y a aussi des puissances mauvaises de l'autre côté. Le bien, le mal, la vérité, la lumière, l'erreur et toutes sortes de choses, ça existe. C'est ce que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas entendre. Tout est beau et tout est parfait. Ni Dieu, ni diable. Ni foi, ni loi. Conclusion. Ne laissons, frères et sœurs, aucune amertume. Il y a peut-être des problèmes à régler dans nos vies. Des problèmes avec nos frères et nos sœurs, des problèmes avec des membres de notre famille, peut-être même inconvertis, toutes sortes de choses. Il y a peut-être des choses à mettre au point. Mais le Seigneur veut nous aider. Il n'est pas là pour nous condamner, il veut nous aider. Il veut nous donner le coup de main. Il veut que nous ayons une âme comme celle de David, parce que David, il a fait des bêtises, il a fait des grosses erreurs, mais à chaque fois qu'il faisait une erreur, il revenait devant Dieu en disant « J'ai péché », et Dieu le pardonnait. C'est ça le message. Alors ne laissons aucune racine d'amertume envahir notre cœur et prendre des proportions. Saül a bien commencé, mais il a mal fini. Ce qui est important, nous dit la Bible également, Ce qui est important et sur ce que nous devons juger, c'est que ce n'est pas le commencement qui est important, mais c'est la fin des choses. Et nous avons certainement bien commencé avec le Seigneur. Et vous continuez à persévérer pour aller dans votre chemin, et le chemin et la route que Dieu vous a tracée. Eh bien, c'est bien, nous nous exhortons les uns les autres. Mais attention à quelquefois des choses qui sont insidieuses, qui ne prennent pas de place au départ, qui est qu'une petite mauvaise graine qui pousse. Et puis, il y a toutes sortes de choses autour de nous, il y a une influence à l'intérieur de nous-mêmes, et là, à ce moment-là, ça prend des proportions et on s'aperçoit qu'on est coincé. On est prisonnier, on est pieds et mains liés, et on en souffre. On en souffre. Mais on fait souffrir aussi les autres. Parce qu'on en souffre. Les mauvais penchants, qui finiront par nous détruire. Alors il y a cette solution, c'est l'obéissance, et c'est la repentance et l'obéissance. Je finis sur une dernière proposition, c'est dans Éphésiens, au chapitre 4 et verset 25. C'est pourquoi il nous est dit, « Renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Si vous vous mettez en colère, ce qui arrive jamais, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ouais. Ne donnez pas accès au diable, parce que nous dit également dans, je crois, les Romains ou les Corinthiens, deux Corinthiens, me semble-t-il, il nous est dit, ne donnez pas accès au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire de faire de nous des gens à son service. Au lieu de faire le bien, nous allons faire le mal, et nous allons faire du mal. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Non, vous avez bien compris, hein. On est sous la grâce, mais on ne va pas donner de prise au diable. Lui, il a rien à faire avec nous. Hein, il a rien à faire avec nous. Alors on va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier pour ta parole qui nous fait pénétrer, c'est vrai, Seigneur, dans des choses qui relèvent, en quelque sorte, eh bien, de l'état de cœur de cette humanité, dans sa conscience, dans ses pensées, dans une volonté qui a été altérée, qui a été atrophiée, et qui fait que, en effet, Seigneur, après avoir connu ta grâce, après avoir confessé nos péchés, s'être converti et donné notre vie à Jésus-Christ, et être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, eh bien, nous nous laissions, Seigneur, emporter par, en effet, ce ferment, ou tout simplement cette levure du mal qui fait lever toute la pâte et qui nous amène à être le contraire de ce à quoi tu nous as appelés, et ainsi, Seigneur, ne plus être des enfants de Dieu, mais des enfants de l'autre. Seigneur, nous te demandons que tu viennes nous éclairer. Oh Seigneur, donne-nous l'amour de la vérité. Oui, donne-nous d'être remplis de ton Saint-Esprit à tel point que ce Saint-Esprit puisse nous révéler chaque jour, à chaque moment, à chaque tentation, que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir parler comme David qui disait, après aussi avoir commis des fautes, eh bien, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, c'est notre prière. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.